Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore fidèle au rendez-vous de Mélomanie. Bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après la petite accalmie durant la trêve dite des confiseurs, la saison des concerts reprend de plus belle depuis quelques jours et ça va aller crescendo d'ici la fin du mois de janvier. Il va y avoir de nouveau beaucoup d'événements à vous annoncer, à vous présenter et à commenter. Nous allons donc avoir, mes camarades et moi, du pain sur la planche dans les semaines à venir pour vous tenir informés de l'actualité musicale du mieux que nous pouvons. C'est déjà le cas dans ce numéro au programme copieux pour lequel je reçois Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avant de nous projeter sur les concerts des prochains jours, nous allons dans un premier temps revenir sur l'actualité la plus récente grâce à la rubrique qui ouvre toujours cette émission. C'est parti pour notre retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité toute récente, c'est d'abord un concert que nous avions présenté et annoncé la semaine dernière lors d'une émission dont la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, Sandrine Tilly, était l'une des deux invitées. Nous avions évoqué avec elle le programme du concert qu'elle donnait avec l'altiste Violaine Despérou et la harpiste Valeria Kafelnikov. C'était à l'auditorium du Musée des Abattoirs dans le cadre de la Saison Bleue. Ce concert a donc eu lieu mardi et nous avons eu la chance d'y assister tous les trois, Anne-Marie, Serge et moi-même. Je dis bien la chance parce que si je devais résumer ce que nous avons entendu mardi, je le ferais en trois mots. Talent, charme et découverte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi tous les deux ?
Oui, tout à fait. C'était le talent, le charme de ces trois jeunes femmes qui composent un trio qui n'est pas un trio permanent, mais qui est un trio quand même, qui se connaît bien. En plus, un trio qui est quand même inhabituel dans sa formation, même s'il existe certaines œuvres, mais des œuvres pour flûte, alto et harpe, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est un trio qui donc aborde un répertoire inhabituel, à la fois aussi très agréable à écouter, même si on n'est pas très connaisseur de ce domaine, et qui a attiré beaucoup de monde lors de ce premier concert de la saison des Mardis Bleus. Mardis Bleus qui sont, rappelons-le, la nouvelle formule des anciens petits concerts du mardi de l'espace Croix-Baragnon. Espace Croix-Baragnon qui n'existe plus, mais qui fait l'objet d'une saison itinérante. Et les petits concerts du mardi ont lieu donc une fois par semaine à l'auditorium des Abattoirs, qui est une salle de 180-190 places, assez confortable, même si elle est un peu froide par sa décoration, mais qui est très agréable, qui n'est pas loin du métro Saint-Cyprien. Et il y avait quasiment, tous les sièges étaient occupés, il y avait beaucoup de monde, donc les gens apparemment apprécient d'aller écouter de la musique à cette heure de la fin d'après-midi, de découvrir même des œuvres que sans doute personne ne connaissait, puisqu'il s'agissait d'œuvres d'André Jolivet, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky, Claude Debussy, Takemitsu, une œuvre. Enfin, il y avait un éventail de pièces pour trio, mais aussi pour duo.
Et même pour alto solo.
Et même pour alto solo. Donc, un concert de musique de chambre peu banal et en même temps très agréable et qui a largement plu à ce public. Et je crois que cette saison bleue qui a bien démarré a déjà trouvé son public et que les autres concerts qui ont lieu donc le mardi, dans ce cadre, devraient être très suivis.
Oui, je pense que c'était la rampe de lancement idéale pour cette saison bleue qui démarre vraiment maintenant, même s'il y a eu un concert au mois de novembre. Là, c'est vraiment le lancement de la saison. Il va y avoir des concerts presque tous les mardis maintenant jusqu'au mois de juin, je crois. Et donc là, c'était Sandrine Tilly à la flûte, Violaine Despérou à l'alto et Valeria Kafelnikov à la harpe. Un programme dont Anne-Marie nous a donné les compositeurs. Serge, vous allez peut-être pouvoir donner un peu plus de détails sur les œuvres qui ont été jouées, parce que effectivement, ce ne sont pas des œuvres qu'on entend tous les jours.
Ah non, absolument pas. D'ailleurs, cette formation flûte, harpe et alto, en fait, la première œuvre écrite pour ce trio, elle est signée de Debussy. C'était la dernière œuvre que ces jeunes femmes ont jouée en fin de concert. Donc, c'était la fameuse sonate pour flûte, alto et harpe. Une merveille, hein, un chef-d'œuvre absolu d'une beauté extraordinaire. Mais Pour arriver là, elles ont emprunté une espèce de parcours tout à fait intelligemment structuré, en commençant d'ailleurs effectivement, comme l'a dit Anne-Marie, par une œuvre d'André Jolivet. Alors André Jolivet, on connaît certaines œuvres un peu âpres, et là pas du tout, il s'agissait des pastorales de Noël, donc quatre pièces tout à fait tendres et poétiques qui évoquent la nativité, tout simplement. Une pièce évidemment de circonstance, hein, pour la date à laquelle elle a été donnée cette pièce. Alors il faut quand même préciser qu'il y a un thème qu'Alain Lacroix souhaite développer au cours de ses mardis, c'est le thème nature en l'occurrence. Et donc là, il s'agissait du concert Nature 1. Puis il y aura un concert Nature 2, Nature 3.
Il y en a quatre en tout.
Il y en a quatre.
C'est le premier du cycle.
Donc, très belle pièce de Jolivet. Ensuite, une fantaisie pour flûte et harpe de Saint-Saëns, donc jouée à deux. Alors, comme l'a remarqué Sandrine Tilly, originellement, l'œuvre est composée pour violon et harpe. Mais elle a bien avoué que les flûtistes adorent voler leurs partitions aux violonistes.
Oui.
Donc, beaucoup d'humour dans la présentation. Et donc, un très beau duo, vraiment, auquel on ne s'attend pas de la part de Saint-Saëns.
Oui, œuvre un peu étonnante d'ailleurs dans l'œuvre globale de Saint-Saëns.
Oui.
Très agréable.
Très belle œuvre. Puis donc cette fameuse pièce pour alto seul, qui est une élégie, alors très sombre hein, comme pièce, jouée donc par Violaine d'Espérou à l'alto avec une très belle sonorité, très chaleureuse, très ronde. Une sonorité un peu dorée. Moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi.
Élégie de Stravinsky.
Oui. Et puis quand même, alors là, la grosse surprise, c'était la transcription du fameux prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, d'après le poème de Mallarmé, et qui a été joué pour flûte et harpe. Alors, l'auteur de la transcription, c'est tout simplement Valeria Kafelnikov elle-même, la harpiste, donc, et qui a réalisé là quelque chose d'incroyable, d'une finesse, d'une intelligence, d'une beauté qui fait que, pour ma part, à aucun moment, je n'ai senti le regret de l'œuvre originale pour grand orchestre.
Je n'y ai pas pensé une seule seconde, moi, pendant qu'elle l'exécutait. Je me dis, tiens, il manque ça, là, il manque ça. Non, vraiment, ça passait très, très bien.
Ah oui, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu magique. Alors, évidemment, la flûte, dans cette œuvre, joue beaucoup plus que ce qu'elle joue dans l'œuvre originale, hein. Et la harpe également, bien entendu. Mais vraiment, c'est une réussite. Il faudrait que cette transcription perdure. Hein,
Oui, c'est ce qu'on lui a dit, parce qu'on a discuté un peu avec Valeria Kafelnikov après le concert. Elle nous disait que c'était la troisième fois qu'elle la jouait comme ça en public. Et on lui a dit, espérons que vous serez programmé de nouveau. Parce qu'après tout, il faut juste une flûte et une harpe. Hein.
N'exige pas un effectif énorme.
Ouais. Sauf que je dirais une chose, c'est qu'il faut que la flûte soit vraiment une flûte solo, comme celle de Sandrine Tilly, qui alterne cette œuvre avec, comment s'appelle, l'autre flûtiste de l'Orchestre du Capitole,
François Laurent.
Le flûtiste, pour avoir entendu souvent ce prélude à l'après-midi d'un faune qui démarre seul, ça doit être un excellent flûtiste.
Ah, c'est sûr que là, c'est le départ est raté.
C'est pas un flûtiste de second niveau.
Terrible.
Et il porte cette œuvre, et Sandrine l'a portée là, dans cette transcription, c'est vraiment très délicat pour la flûte.
Ah, il faut un grand flûtiste ou une grande flûtiste.
Oui, mais c'était le cas là. Hein. Donc vraiment un grand plaisir pour cette transcription. Et puis quand même, il y avait l'œuvre la plus récente qui date de 1992 et qui est de Toru Takemitsu, le compositeur japonais, qui avoue sa vénération de Debussy.
Et sa dette.
Envers Debussy. Et cette œuvre peut être considérée comme un héritage de Debussy puisqu'il reprend effectivement l'effectif du trio de la fameuse sonate de Debussy. Et il en fait quelque chose de tout à fait magique, là aussi, tout à fait étonnant, avec une espèce de poésie, de finesse, d'intelligence, de subtilité, qui est magnifique. Alors la pièce, elle est composée d'abord d'après un poème de la poétesse américaine Emily Dickinson, un poème dont le titre est « And then I knew it was wind », c'est-à-dire « Et alors j'ai su qu'il y avait du vent ». Donc c'est un poème sur les éléments, en quelque sorte. Le vent, la pluie...
Et qui sont très présents dans l'exécution de l'œuvre. On entend l'élément liquide, on entend le souffle.
Absolument. Donc c'est une œuvre un peu étonnante, mais très belle, hein, qui n'a rien de répulsif. Hein. C'est une œuvre à laquelle on adhère immédiatement. C'est pas un langage très très compliqué ou
non, c'est pas hermétique du tout. Enfin, moi, j'ai
très
pas trouvé
hermétique. Hein, donc c'était très bien qu'elle joue cela.
Parce que Takemitsu a composé des musiques de films.
Entre autres
pour Akira Kurosawa, pour ceux qui ont vu le film Ran, qui est une espèce d'adaptation du Roi Lear par Kurosawa. Et cette pièce m'a fait penser. Vous parliez de poésie, de rêverie. Ça m'a fait penser une espèce de rêverie poétique. Il y a un film, un autre film de Kurosawa, un de ses derniers, dont le titre justement est Dreams. Et j'ai beaucoup pensé à ça, parce qu'il y a des images qui viennent, quand c'est très imagé comme musique.
Tout à fait, tout à fait. Musique d'image, oui,
c'est
tout à fait
très ça. Évocateur.
Ouais. Oui, absolument. Donc c'était très bien de jouer ça. Et enfin, donc, la dernière pièce, ben, on remonte aux origines, en quelque sorte, de l'association de ces trois instruments avec cette sonate pour flûte, alto et harpe. Donc, il ne faut pas oublier que Debussy l'a composé tout à fait à la fin de sa vie, en 1915, hein, et il est mort en 1918, je vous rappelle. Et donc, pendant la guerre, il souhaitait en fait composer, je crois, 6 sonates, hein, tout simplement pour rendre hommage à l'écriture française. Et dans son esprit, c'était un peu, ça se situait face à la domination, je mets des guillemets, germanique.
Wagnerienne.
Wagnerienne et germanique en général. Oui, hein. Mais... bon, c'est vraiment, comment dire, dans cette œuvre, Debussy veut exalter les qualités d'écriture de la musique française. Et il y a réussi parfaitement.
Son ami Satie le poussait beaucoup vers ça. Ils se voyaient assez souvent, ils déjeunaient ensemble. Oui, oui. Et un jour, Satie lui a dit « Il faut que nous ayons une musique à nous, si possible, sans choucroute ». C'est du Satie. Ouais. C'est du Satie.
Ah oui, 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 tout pur là. Oui, formidable. Alors, c'est incroyable. Le fait peut-être d'avoir joué cette sonate après le Takemitsu, j'ai eu l'impression que les interprètes en soulignaient la modernité. Vraiment. Et accentuaient un peu les contrastes entre les mouvements. Hein. Et donc, il y avait une espèce d'ouverture de cette pièce qui est d'une délicatesse absolue. Comme l'a évoqué Sandrine Tilly, une fois de plus, elle a évoqué, comment dire, la qualité d'aquarelliste de Debussy.
Oui, c'est le mot qu'elle a prononcé, aquarelliste.
Elle a prononcé le mot. Hein. Et c'est tout à fait ça. Hein. On imagine des bleus pâles, des roses. Non, mais vraiment, c'était une magnifique fin pour ce concert qui, donc, répétons-le, était vraiment une absolue réussite.
Et puis, ce qui était aussi très réussi, c'est qu'elles ont présenté pas mal d'œuvres, oui. Notamment Valeria Kafelnikov, avant de jouer sa transcription du Faune pour flûte et harpe, bah, expliquer comment elle avait procédé. Oui, voilà. Elle était d'ailleurs très humble en disant bon,
complètement d'une modestie incroyable. Oui. Et même après, quand on a discuté avec elle, oui. Elle était très modeste. Hein. Elle n'était pas sûre que ça réussisse. Oui. Elle n'était pas certaine qu'elle obtienne l'adhésion du public, alors que là, ça a été à l'évidence.
Unanime.
Ça a été unanime, l'accueil qui a été fait à cette...
Je voulais simplement dire que la salle dans laquelle j'avais assisté à des concerts de piano, là nous étions dans les premiers rangs, mais je crois que l'acoustique de la salle est excellente. Parce que là, en même temps, les sons se distinguaient bien, sans dureté, avec la clarté des timbres, mais sans dureté, que tout était lisible. Et je crois qu'au fond, c'est la même chose. Mmh. Et je crois que cette salle est très, très bien faite pour des concerts de musique de chambre, pour mettre en valeur, justement, les timbres de chaque instrument.
Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, on peut souhaiter quand même que ce programme-là soit de nouveau donné par ce trio.
Ça le mériterait amplement. Alors, la semaine dernière, pour illustrer le programme du concert, au moment où nous l'avons annoncé, je vais diffuser un extrait des pastorales de Noël de Jolivet et du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Nous avions cependant beaucoup insisté sur l'intérêt qu'il y avait à écouter en concert And Then I Knew It Was Wind, le trio pour flûte, alto et harpe de Toru Takemitsu. En voici un extrait, il s'agit du tout début. Le premier mouvement du trio pour flûte, alto et harpe, and then I knew it was wind, de Toru Takemitsu. Magnifique de sonorité et d'ambiance singulière, c'est une des œuvres qui est au programme du concert donné mardi par Sandrine Tilly, Violaine Despérou et Valeria Kafelnikov au Musée des Abattoirs dans le cadre de la Saison Bleue. Et vous pouvez d'ores et déjà noter que le prochain concert de la Saison Bleue a lieu mardi prochain, 15 janvier, à 18h15 et toujours au Musée des Abattoirs. C'est le pianiste Julien Brocal qui va s'y produire, avec un programme encore inspiré par le thème de la nature. Un autre très joli programme. Nous avions aussi annoncé un autre concert la semaine dernière, celui de l'ensemble Accademia dell'Annunziata et du violoniste Giuliano Carmignoli à Saint-Pierre-des-Cuisines, pour le compte de la Saison des Arts Renaissants, des musiciens italiens pour un programme intitulé « Un Italien à Londres ». C'était mercredi et nous avons assisté tous les deux, Serchosi et moi-même. Nous étions curieux de découvrir ces interprètes et les œuvres de ce programme puisqu'un certain nombre nous étaient inconnus. Et là encore, comme lors du précédent concert des Arts Renaissants, j'en suis sorti un peu mi-figue, mi-raisin à l'issue de l'exécution de ce programme, notamment en raison de la performance de Giuliano Carmignola. Qu'est-ce que vous en pensez, Serchosi ? Est-ce que vous êtes un peu dans l'entre-deux, comme moi ou...
Bon, je serai peut-être un tout petit peu moins critique, mais je vais un peu dans votre sens. Alors, il faut quand même parler de cet ensemble, hein, qui est un bel ensemble. Là, le côté orchestral, je crois, a été tout à fait réussi.
Oui, c'était très bien, c'est vrai.
Il s'agit donc d'un orchestre, hein, puisqu'il était une vingtaine quand même de musiciens, et qui s'appelle l'Accademia dell'Annunziata. Alors c'est un ensemble un peu particulier, il a à peu près 10 ans puisqu'il est né en 2009 à Abbiategrasso en Italie, et donc c'est une formation baroque, hein, des musiciens qui jouent sur instruments d'époque. Alors l'intérêt de cet ensemble, c'est qu'il y a des musiciens professionnels chevronnés qui le composent, mais ils impliquent de jeunes musiciens qui jouent à leur côté et qui initient un parcours professionnel et de formation qui est, je crois, unique en Italie. Donc, c'est un ensemble qui a beaucoup de qualités pédagogiques au-delà d'une qualité musicale. Et je crois que la qualité musicale, on l'a eue par cet ensemble, hein, en particulier dans les symphonies qu'ils ont jouées. Alors, c'était un programme composé d'abord d'œuvres de deux des fils de Bach, Johann Christian et Carl Philipp Emanuel, bon, les deux plus célèbre, hein, des fils de Bach, puisque quatre de ses fils ont été quand même compositeurs. Et là, j'ai beaucoup aimé en particulier la toute première œuvre qui était la symphonie numéro 6 de Johann Christian Bach, jouée avec une vivacité de ces musiciens tout à fait impressionnante, avec une fièvre même, puis un mystère dans l'andante. Et alors à la fin de cette symphonie, c'était amusant, la fin est suspendue, on a l'impression que ça s'arrête en cours d'exécution. Donc c'était très très bien. De même que la symphonie numéro 3 de Carl Philipp Emanuel, qui est jouée uniquement par les cordes, hein, qui est à la fois virtuose et dramatique. Bon, on sait que Carl Philipp Emanuel, a annoncé un peu le classicisme, hein, au-delà du baroque dont il est issu et qu'il a connu Mozart. Hein. C'est vraiment un grand compositeur, hein, même si Bach lui-même avait des jugements très, très affirmés concernant ses fils. À propos de son fils Carl Philipp Emanuel, il disait « c'est du bleu de Prusse, ça se décolore ». C'est pas très gentil pour son fils.
Non.
Bon, en l'occurrence, là, c'était vraiment très bien fait. Il y a eu de très belles choses. Et puis une œuvre de Carl Friedrich Abel, qui est un compositeur un peu moins connu quand même que les fils de Bach.
Mais de la même époque.
De la même époque, exactement. Tout est du 18e. Hein, avec une ouverture qui est en fait une symphonie, hein, quelque sorte. Mais très bien, avec un deuxième mouvement très touchant, très sensible. Très bien joué par cet ensemble, moi que j'ai beaucoup apprécié. Alors, concernant le soliste de l'ensemble, donc Giuliano Carmignoli, il est connu à Toulouse, il est venu plusieurs fois pour les Arts Renaissants. C'est un violoniste très célèbre.
Oui, très réputé.
Très célébré, on peut dire, en particulier pour les œuvres de Vivaldi, dont
oui,
il s'est fait une spécialité. Hein. Et donc, je l'ai entendu plusieurs fois. Là, je l'ai trouvé un peu moins en forme que les fois précédentes, évidemment, surtout au début, d'ailleurs. Il a commencé par un concerto de Felice Giardini. Alors, c'est lui, le fameux Italien à Londres. Hein.
Donc, Giardini, pas Carmignola.
Non, Giardini. Felice Giardini, qui est
le compositeur.
Donc un Italien de la même époque et qui a donc travaillé à Londres en particulier et qui a écrit notamment des concertos. Carmignola a joué deux de ses concertos.
Et le 2 et le 3.
Le 2 et le 3, oui. Alors pour le 2, effectivement, au début, on était un peu surpris par sa sonorité, un peu... Enfin, pas très propre, je dirais.
Oui, c'était un peu aigrelet, j'ai trouvé. Oui.
Étrange, bon, étrange.
Oui, j'étais surpris aussi au début.
Et puis la chose s'est améliorée au cours de la deuxième partie. Hein. Là, il y a eu un peu plus d'implication et de jeu, d'imagination dans les cadences en particulier. Il joue de belles cadences. Hein. Puis il a une autorité, bon. Mais effectivement, on peut dire que c'est quand même un sacré personnage. Hein.
Oui.
Et donc... moi, j'ai eu l'impression qu'il faisait là son show.
Il faisait un peu un numéro par moment.
Un numéro, avec panache, il faut dire.
Oui,
hein,
oui.
Avec panache.
Oui.
Hein. Donc, c'est vraiment un personnage. Hein. Alors, bon, il y a une chose qui, moi, m'a considérablement gêné, c'est son habitude de marteler le parquet de l'auditorium. Bon, donner des coups de pied dans le parquet, on avait l'impression qu'il y avait des percussions.
Oui, ce que j'allais dire, on n'avait pas besoin de percussions. Là,
non, non, là, c'était un peu bizarre.
Quand ça lui échappe une fois, bon, j'aurais compris, mais c'était tellement régulier que ça devenait vraiment gênant à la longue.
Hein, oui, oui, c'était gênant. Je dois dire que ça m'a fait sursauter à plusieurs reprises. Hein.
Ben oui,
d'autant plus quand il pratique ça au milieu d'un andante, par exemple.
Oui, c'était pas tout droit à propos.
Donc,
non.
Étonnant. Effectivement, on lui pardonne tout ça. Mais je voudrais quand même souligner que ce qui ressort de ce concert, c'est la qualité de l'ensemble, même si je dois dire que le clavecin est resté très discret.
C'est ce que j'allais dire. Donc, Riccardo Doni, le chef de cet ensemble, qui m'a l'air d'être un très bon chef, ça, il n'y a pas de problème. Il dirige de temps à autre tout en jouant du clavecin, sauf qu'on ne l'entendait pas. Moi, j'étais à 3 mètres, je ne l'entendais pas. Alors là aussi, c'était très étrange.
Oui, est-ce que c'est l'instrument lui-même? Parce que un clavecin, l'intensité sonore d'un clavecin, ça n'est pas le fait
C'est pas le fait de taper plus ou moins fort dessus.
Non. Donc, c'est peut-être un instrument qui n'était peut-être pas tout à fait adapté au programme. Donc, un concert, avec ses hauts et ses bas. Mais moi, je voudrais quand même souligner la qualité de l'ensemble.
Oui, les musiciens de l'ensemble étaient excellents.
Et en particulier, les vents. Il y avait deux cors et deux hautbois qui jouaient magnifiquement. Et puis, tu sais que le cor naturel est un instrument délicat à pratiquer. Et ben, ça a été très, très bien.
C'était très bien.
Et les cordes magnifiques.
L'ensemble, il arrive.
Avec beaucoup de nuances. Voilà l'intérêt que j'ai trouvé dans leur interprétation, c'est qu'ils faisaient vivre la musique, vraiment.
Bon, on va en rester là, on va pas épiloguer. Et nous allons maintenant écouter l'ensemble Accademia dell'Annunziata et Giuliano Carmignola dans une interprétation du concerto opus 15 numéro 4 de Giardini, le premier mouvement.
Thank you.
un extrait du premier mouvement du concerto opus 15 numéro 4 de Felice Giardini, interprété par Giuliano Carmignola, en bien meilleure forme sur cet enregistrement. Il est aussi accompagné bien sûr par l'Accademia dell'Annunziata, un ensemble et un violoniste que nous aurons peut-être l'occasion de réécouter une prochaine fois dans le cadre de la saison des Arts Renaissants ou d'une autre d'ailleurs. C'était mercredi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le prochain est programmé mercredi 20 février à 20h30, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il s'annonce très plaisant puisque c'est le prestigieux Quatuor Hagen que les Arts Renaissants ont invité à se produire et ils joueront un programme d'œuvres de Shostakovich, Dvorak et Schubert. Je crois que les places devraient vite partir, alors je vous conseille de vous précipiter pour réserver auprès des Arts Renaissants. Fin de la première partie de cette émission, petite pause d'une minute pour souffler un peu et on se retrouve pour la seconde partie et l'agenda de la semaine prochaine avec Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi.
Mélomanie, l'agenda.
Et dans l'agenda des prochains jours, il y a un très beau concert dès ce samedi 12 janvier à la Halle au Grain. Il est donné à 20h par le pianiste Adam Laloum et l'Orchestre National du Capitole. Adam Laloum, l'enfant du pays, l'autre star du piano Made in Toulouse avec Bertrand Chamaillou. Il va jouer accompagné par l'Orchestre du Capitole, dirigé par le chef singapourien Kachou Mong, le concerto numéro 21 de Mozart. L'Orchestre National du Capitole interprétera ensuite la symphonie numéro 1 de Gustav Mahler. C'est un beau et très consistant programme. On va procéder dans l'ordre et commencer par Adam Laloum, mais le 20e concerto de Mozart. D'abord, je voudrais avoir votre avis à tous les deux sur ce pianiste encore jeune, il n'a que 31 ans, qui n'en finit pas de susciter intérêt et admiration. Est-ce que vous faites partie, Anne-Marie et Serge, des fans d'Adam Laloum ?
Ah ben, moi en tout cas j'aime beaucoup, beaucoup ce pianiste qui est un vrai poète du clavier, hein, qui joue avec une finesse, une intelligence, une sensibilité. Et donc, il ne faudrait pas oublier qu'il a été quand même premier prix du concours Clara Askill en 2009, ce qui est quand même
ça classe un peu
une référence. Hein, oui, oui. Et qu'il est invité dans les plus prestigieux festivals de piano, La Roque d'Anthéron, Lucerne et évidemment Piano Jacobin. Bon, c'est vraiment un grand artiste et moi j'avoue que je n'ai jamais été déçu, si peu que ce soit, par ce qu'il a fait. Donc nous avons beaucoup de chance à Toulouse d'avoir de si excellents artistes qui se produisent dans le monde entier. Oui, issus d'une excellente formation au conservatoire.
C'est une vitrine extraordinaire pour la formation musicale toulousaine bien sûr, mais aussi pour la ville. Hein,
On peut déjà imaginer que son interprétation du 21e concerto de Mozart, peut-être le plus célèbre et le plus apprécié, surtout pour son mouvement lent, qui a participé dans des exemples peut-être un peu exagérés, dans des pubs. Hélas, c'est le cas des grands chefs-d'œuvre, donc c'est leur sort. Mais là je crois qu'il faut espérer qu'on aura une très belle interprétation de cette.
Concerto. Adam Laloum, pianiste très subtil, touché au son très délicat. Anne-Marie, vous, qu'est-ce que vous en pensez d'Adam Laloum ?
Je crois que Toulouse et moi-même le soutenons depuis ses débuts à Toulouse. Je crois qu'il n'a déçu personne et qu'il poursuit une carrière de plus en plus solide sur tous les plans, non seulement en France mais au plan international. Et que quand il revient à Toulouse, tout le monde est là et sa famille, puisqu'il a toujours sa famille à Toulouse, pour le soutenir. Et parce que je crois qu'il ne déçoit pas. Il a non seulement des qualités techniques mais aussi des qualités d'interprète, de toucher qui sont assez rares. Et dans Mozart, je pense que ce concert concerto sera tout à fait à sa mesure et fait pour lui sur le plan d'interprétation. Mais aussi, le réussite d'un concerto dépend, bien sûr, et beaucoup de l'entente avec le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, Kachun Wong, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation.
Certainement pas, mais bon, on va prononcer à la française. Hein.
Oui. Il est de Singapour, bien qu'il vive en France maintenant, puisqu'il est devenu le chef principal de l'Orchestre symphonique de Nuremberg. Et il avait dirigé l'an dernier, à la tête de l'Orchestre du Capitole, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Il avait eu vraiment un accueil et il avait été considéré de façon unanime comme un chef efficace, aussi bien techniquement qu'un grand musicien. Et là, il va diriger la première symphonie de Mahler, en dehors de Mozart. Et je crois que ça sera encore pour nous une façon de vérifier sa maîtrise d'un large répertoire. Passer de Mozart à Mahler, ça suppose aussi beaucoup de brio et de compréhension musicale, donc voilà, Kachum Wong.
Alors ça nous amène à la seconde œuvre qui va être au programme de ce concert, c'est la première symphonie de Gustav Mahler, c'est qu'on appelle aussi symphonie Titan. Qu'est-ce qu'on peut en dire là, de ce Mahler des débuts dans le domaine de la symphonie ?
Eh bien, il a eu quelques malheurs, c'est le cas de le dire, au début, puisque sa symphonie n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Il a dû la reprendre,
la
modifier, la retravailler. Et donc, il a fallu du temps pour qu'elle soit acceptée. Mais on se souvient que Vienne, à la suite, après la mort de Mahler, a beaucoup boudé sa production. Et qu'il a fallu un Leonard Bernstein, qui vient diriger l'Orchestre Philharmonique de Vienne, pour inciter ses musiciens à jouer leur musique. Ce qu'il a dit à ses musiciens, mais comment pouvez-vous ne pas jouer votre musique ? Et il a dû insister, faire un effort considérable pour amener les Viennois à jouer la musique de Mahler, qui a été longtemps mise de côté. Hein. Donc, il ne faudrait pas croire que depuis sa composition, sa musique n'a connu qu'un chemin de rose. Non, pas du tout. Et donc, cette première symphonie, bon, c'est vraiment celle qui donne le point de départ. Bon, de 9 symphonies magnifiques, 10 même, puisque la 10e est commencée mais pas achevée. Et donc, cette première, pour ma part, j'y vois comme une sorte d'hymne panthéiste, hein, et qui remonte à très loin, puisqu'il a d'abord été esquissé en 1884 à Cassel, et puis révisé, donc. Et son édition définitive ne date que de 1906, ce qui est quand même récent par rapport à la vie de Mahler, qui est mort en 1911. Hein, et donc, il avait composé 9 symphonies depuis. Hein. Alors, c'est une œuvre magnifique, hein, avec une orchestration stupéfiante. Enfin, c'est
titanesque.
Ah, complètement titanesque. Je crois qu'elle mérite bien son nom, hein, avec des choses tout à fait inhabituelles, comme un solo de contrebasse qui débute le mouvement lent et qui reprend le frère Jacques dans sa version allemande, Bruder Martin. C'est une symphonie tout à fait extraordinaire. Hein, donc, on est très heureux. D'ailleurs, elle est jouée assez souvent, hein, il faut le reconnaître.
Oui,
hein.
Peut-être c'est pas forcément par le Capitole, mais par d'autres formats.
Non, mais c'est la symphonie la plus jouée de Mahler.
Oui,
hein,
oui, oui.
Tout de même, c'est, au moins cette symphonie ne demande qu'un orchestre, si je puis dire. Un bon orchestre, évidemment, mais qu'un orchestre. Les autres, comme la 2e, la 3e, la 8e, bon, il faut des chœurs, des solistes, c'est un peu plus compliqué.
Il voulait bâtir un monde avec ses symphonies, avait-il écrit.
Oui,
et
oui.
Ses symphonies sont à la fois quand même dans la veine d'un certain classicisme et en même temps tout à fait nouvelle, hein, par les matériaux qu'elles emploient, par les sortes de collages musicaux déjà qu'elles font entre des instruments, entre des thèmes comme le frère Jacques qui revient là. C'était des sortes de visions parfois qu'il avait. Il avait entendu, dans cette œuvre, quand il dit, il avait entendu des soldats passer, donc il y a quelque chose qui lui revient, des souvenirs, c'est quelque chose qui, l'univers de Mahler, je trouve que c'est fascinant.
Ah, c'est fascinant, il y a aussi sa manière d'utiliser, par exemple, des fanfares de cuir, coulisses, dans les coulisses, pour que ce soit éloigné, que le son semble provenir de très loin, ou le fait d'intégrer à l'orchestre des cloches de vaches, pour évoquer la nature, les paysages alpestres. Bon, c'est vraiment un imaginatif incroyable.
Là, il y a un côté cinématographique,
c'est sans doute
pas pour rien que Luchino Visconti a utilisé le fameux adagietto de la 5e pour son film Mort à Venise. Voilà, il y a quelque chose, effectivement, de cinématographique, de mise en scène dans cette musique.
Exactement, et de mise en image. C'est vraiment un répertoire fascinant, tout à fait fascinant.
Alors, on va pas écouter la première symphonie de Mahler parce que le programme de ce concert va nous donner l'occasion d'écouter Adam Lallum dans le concerto numéro 21 de Mozart, un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre, du génial compositeur autrichien. Et dans ce célèbre concerto, il y a un mouvement andante fameux que l'on connaît tous et qu'on ne se lasse pas d'écouter. Adam Lallum est accompagné ici par l'Orchestre National de France sous la direction de Christian Jarvi. On l'écoute tout de suite. L'Andante du concerto numéro 21 de Mozart, interprété par Adam Laloum, accompagné ici par l'Orchestre National de France dirigé par Christian Jarvi. C'est l'œuvre qui va ouvrir le concert que donne le jeune pianiste toulousain avec l'Orchestre National du Capitole ce samedi 12 janvier à 20h à la Halle au Grain. Au programme également la symphonie numéro 1 de Gustav Mahler. Nous allons maintenant remonter un peu dans le temps en revenant à la musique baroque avec les concerts que va donner l'Orchestre de Chambre de Toulouse la semaine prochaine à Saint-Pierre des Cuisines les 14 et 15 janvier, puis à l'escale de Tournefeuille les 17 et 18, des concerts qui vont tous commencer à 20h30. Comme chaque mois, le programme est dédié à un ou des compositeurs. Celui-ci a été intitulé Bach, Père et Fils, ce qui donne l'indication selon laquelle on devrait y trouver du Jean-Sébastien Bach. En revanche, reste à savoir lequel, ou plutôt lesquels, de ses fils y sont également programmés. Eh bien, ce sont encore Carl-Philippe, Emmanuel et Johann Christian. Je vais me retourner vers vous, Serge, parce que vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Carl-Philippe, Emmanuel Bach et Johann Christian, quelle place tiennent-ils dans la fratrie Bach, et puis peut-être plus encore, quelle place tenait-il dans la musique européenne de leur époque, c'est-à-dire celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle?
C'était des compositeurs tout à fait importants, hein, et donc qui ont, même lorsqu'ils ont connu leur gloire, cette gloire a effacé celle de leur père. Et donc on ne jouait plus trop Jean-Sébastien et on jouait beaucoup les musiques de ses fils. Et donc parmi les quatre fils qui ont été compositeurs, les quatre fils de Jean-Sébastien, donc effectivement c'était les deux plus célèbres. Hein.
Peut-être quand même aussi avec Wilhelm Friedemann.
Il y a Wilhelm Friedemann qui a été aussi bien connu. Mais Carl-Philippe Emmanuel est peut-être le plus populaire et donc...
Et le plus respecté de ses pairs à l'époque,
on peut le dire. Exactement. Donc, il est vrai qu'on a une image un peu déformée de ce qui se passait à l'époque. Hein. Ça n'était pas Jean-Sébastien qui était considéré comme le grand compositeur de l'époque. Il était considéré comme un peu passé de mode, même, ce qui est incroyable avec ce que l'on sait, la pratique d'aujourd'hui. Hein.
Ben, je pense qu'on dit aujourd'hui Carl-Philippe Emmanuel et Johann Christian sont les fils de Jean-Sébastien Bach, alors qu'à l'époque, on devait sans doute dire Jean-Sébastien Bach est le père de...
Exactement.
Il y a les fils d'eux, et lui, ça devait être à l'époque le père d'eux, je crois.
Oui.
On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, tellement c'est un colosse, si ce n'est le colosse de la musique savante occidentale.
On l'appelle quelquefois le père de la musique
occidentale. Oui, ce qui n'est pas faux.
C'est quand même celui qui a le plus influencé tous les compositeurs qui ont suivi, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque des compositeurs d'aujourd'hui pratiquent encore le contrepoint défini par Bach, hein, par Bach Johann Sebastian.
Mais je reviens à Carl-Philippe Emmanuel Bach. J'avais vu, ça date un peu maintenant, un concert du Festival Toulouse les Orgues qui était présenté par Gilles Cantagrel, éminent spécialiste de Bach s'il en est. Et il avait dit que Carl-Philippe Emmanuel Bach, s'il n'avait pas été le fils de Jean Sébastien, serait sans doute aujourd'hui considéré pour ce qu'il était, un génie. Je voulais aussi rappeler qu'à l'époque, je parlais de l'influence et du respect que lui témoignaient ses pairs. C'est-à-dire qu'on allait le voir. On allait presque en pèlerinage rencontrer Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Absolument, pour lui demander conseil. Oui, de nombreux compositeurs l'ont...
Mozart le révérait, faut pas dire le vénérait,
mais Mozart,
le révérait
en tout cas. C'était un immense compositeur pour Mozart, oui.
Les œuvres au programme, donc il y en a deux de Jean-Sébastien Bach. Il y a son fameux concerto à deux violons, BWV 1043, qui a été transcrit pour deux pianos. Et puis, il y a, alors le titre, c'est suite extraite du Notenbourg d'Anna Magdalena Bach. Peut-être on parlait justement du rôle d'Anna Magdalena Bach autour de son époux Jean-Sébastien Bach.
Elle l'a beaucoup poussé en quelque sorte. Elle a effectivement écrit dans un livre des notes qui provenaient de son époux. Et donc, ça a été une grande aide pour son époux. Donc effectivement, Anna Magdalena, c'est vraiment un personnage important dans la vie de Bach.
Alors Carl-Philippe Emmanuel Bach qui sera joué sa symphonie W182-1, que je ne connais pas, et Johann Christian Bach, 3 Sinfonietas londoniennes, on revient à Londres,
voilà,
comme vous l'aviez rappelé la semaine dernière, qui était à l'époque un peu la plaque tournante de la musique classique en Europe.
On l'a qualifié aussi de Bach de Londres. Hein. Il y a eu le Bach de Hambourg, le Bach de Londres. Bon, effectivement. On voyageait beaucoup à l'époque aussi. Hein.
On ne peut achever la présentation de ce concert sans écouter un extrait de cette merveille qu'est le concerto à deux violons BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach. En voici une version interprétée par Itzhak Perlman et Pinchas Zuckerman sous la direction de Daniel Barenboim. Thank you.
Le premier mouvement Vivace du concerto à deux violons BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Itzhak Perlman et Pinchas Zuckerman sous la direction de Daniel Barenboim. C'est une des œuvres au programme du concert Bach Père et Fils que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse lundi 14 et mardi 15 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis jeudi 17 et vendredi 18 à l'escale de Tournefeuille. Ces quatre concerts commenceront tous à 20h30. Je ne voulais pas terminer cette émission sans dire un mot du concert des Kingsingers. Samedi 19 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est la saison des grands interprètes qui accueillent le célèbre sextoire vocal britannique. Et c'est toujours un petit événement dans cette formation à les faveurs du public depuis des décennies un peu partout dans le monde, avec des programmes de plus en plus éclectiques au fil des années. Je vous ai posé la question tout à l'heure concernant Adam Laloum. Anne-Marie et Serge, est-ce que vous êtes de ceux qui ne ratent aucune des apparitions des Kingsingers à Toulouse ?
Je ne sais pas, mais j'ai pas eu l'occasion de les écouter encore lors de leur venue. Ça devait mal tomber ou il y avait un autre concert. Mais je crois qu'ils sont, ce que j'en ai entendu, vraiment exceptionnels sur tous les plans, de maîtrise vocale individuelle et collective, qui ont en plus un répertoire très vaste, de plus en plus mêlé, qui dégagent quelque chose de vraiment très fort dans leur chant, quel qu'il soit. Et parce que comme les Anglais savent chanter, je pense qu'ils savent...
Ah ça, ce sont les maîtres du chant choral, du chant au sens large d'ailleurs. Alors vous, Serge, en revanche, je crois que vous êtes vraiment un fan.
Je crois que n'est pas raté, non, effectivement. Parce que c'est un sextuor vocal, ils sont six chanteurs, donc, qui est tout à fait mythique, qui a un certain âge, puisqu'il est né en mai 1968.
Tiens donc, bon, c'est un hasard.
C'est un hasard, hein, effectivement.
Il ne se passait rien en Angleterre.
Et donc, il est né au King's College de Cambridge, hein, implanté dans l'université britannique.
Bon, c'est une institution en Angleterre, les Kingsingers.
Ah, complètement. Alors, ce qu'on peut dire, effectivement, comme l'a dit Anne-Marie, ce qui est impressionnant, c'est déjà la perfection technique. Hein. C'est impressionnant la précision avec laquelle ils chantent ensemble et individuellement. Donc, c'est tout à fait magnifique. Et la formation vocale n'a pas changé depuis 68. Les chanteurs, oui, bien sûr. Mais la formation n'a pas changé.
Ils sont toujours six, ça c'était toujours...
Oui, mais deux contre-ténors, un ténor, deux barytons et une basse. Et ça a toujours été cela depuis la création. Et donc, tous les ans, pratiquement, ça change. Hein. Il y a un turnover, comme on dit maintenant, pour parler français, qui est très important. Hein. Et donc, l'année 2018, qui a marqué le 50e anniversaire, bah, ils ont présenté une saison particulière qu'ils ont appelée Gold, or. Donc, saison or, comme pour l'anniversaire d'un mariage, hein, un peu en quelque sorte. Et donc, c'est effectivement... un peu l'amour de la diversité musicale qui les caractérise.
Hein. Oui, parce qu'il y a ça aussi quand même.
C'est que... Ah, mais c'est impressionnant, puisque alors, le programme qu'ils vont donner lors de leur concert toulousain est à l'image de ce qu'ils savent faire. C'est un programme qui va de la Renaissance aux Beatles et au-delà. Donc, ils chantent absolument tout et avec cette perfection qui est toujours la même. Hein. Alors, c'est très amusant parce que le programme de ce concert est structuré sous forme de chapitres. Il y a un premier chapitre, The Family, donc la famille. Alors je traduis, bon, alors là c'est des chants anciens. Puis ensuite il y a la joie de la Renaissance, également, il y a du Vasquez en particulier. Puis il y a le voyageur, et il y a une pièce de Saint-Saëns que je ne connaissais pas, les marins de Kermor. Bon, mais très bien. Et puis, il y a la romance du chant populaire, donc avec des chansons populaires issues du monde entier, qu'ils vont animer, alors comme ils savent le faire. Hein. Et puis, il y a du Takemitsu. Hein, nous retrouvons,
j'allais le dire.
Nous retrouvons Takemitsu, oui, avec une pièce qui s'appelle Handmade Proverbs. Les proverbes faits à la main, c'est pas ce que ça doit recouvrir.
Les titres des pièces de Takemitsu sont souvent comme ça.
Très sibyllines.
Des expressions aussi qui suscitent la curiosité.
Et puis, il y a un épisode consacré aux Beatles, Lennon et McCartney, et bon...
Mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs pièces d'ailleurs.
Plusieurs pièces, oui, plusieurs pièces. Et puis, bon, en plus une pièce de quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle Drayton, bon, d'accord. Et puis le Bard, un épisode qui est consacré à un Bard. Puis le Visionnaire, et puis enfin, ça s'achève par un épisode qui peut susciter la curiosité de tout le monde, qui s'appelle La Pochette Surprise.
Oui,
alors donc là, il s'agira des incontournables... nous annonce-t-on, du répertoire des Kingsingers. Donc on peut s'attendre à tout, là.
Mais surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que j'imagine la souplesse qu'il faut pour si rapidement d'un registre à l'autre.
Et puis ils adaptent
quand on a un
style.
Peu chanté, on sait que ça se fait pas comme ça. Hein.
Oui. Ah non, mais en plus, ils ont un respect du style qui est incroyable. De chaque musique qu'ils interprètent, ils changent de style, évidemment. Ils chantent pas les Beatles comme les chansons de la Renaissance.
Oui, voilà, c'est ça. On ne chante pas des pièces de la Renaissance comme on chante une chanson des Beatles, évidemment. Oh. Il y a du jazz aussi souvent, ce qu'ils font.
Oui, exactement. Et là, d'après ce que j'ai vu, il semblerait qu'il s'agit donc d'un ensemble de jeunes chanteurs. Ce sont tous de nouveaux.
Oui, j'ai vu les photos, effectivement.
effectivement, ils ont l'air plutôt jeunes, oui.
Oui, ils ont l'air très très jeunes. Donc c'est très bien. Et puis j'en ai entendu un extrait d'ailleurs, puisqu'il y a sur YouTube quelques extraits. C'est tout aussi impressionnant que ce que faisaient leurs aînés. Hein.
Eh bien, on ne va pas se gêner pour en écouter un extrait de ce programme. Il y a tellement de pièces à ce programme des King Singers qu'il y a que l'embarras du choix pour en diffuser un extrait. Alors, comme ils ont eu le bon goût d'y mettre une œuvre d'un compositeur français, vous l'avez cité d'ailleurs, Serge, c'est celle-ci que nous allons écouter. J'avoue que je ne la connaissais pas non plus. Il s'agit des Marins de Kermore de Camille Saint-Saëns. Les Marins de Kermore de Camille Saint-Saëns, chanté par les King Singers. C'est une pièce au programme du concert que l'ensemble vocal britannique va donner samedi 19 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre de la saison des grands interprètes. Je crois qu'il reste très très peu de place, si tant est qu'il en reste encore d'ailleurs. Je vous conseille donc de contacter très rapidement les grands interprètes si vous voulez assister à cette soirée. Et comme nous parlons des grands interprètes, Anne-Marie va nous donner une information parce qu'elle est toute fraîche et elle est importante. Il y a un changement de pianiste pour le concert du 28 janvier.
Oui, c'est vraiment de dernière minute. Ils l'ont annoncé simplement aujourd'hui. Lundi 28 janvier, on revient à la Halle au Grain. Le pianiste Murray Peraya a dû annuler son concert pour des raisons de santé sérieuses. Un remplaçant a été vite trouvé, qui n'est pas n'importe qui, c'est Arkady Volodos. Le pianiste russe qui vit, je crois, maintenant en Europe occidentale, qui revient à Toulouse, puisqu'on l'a déjà entendu, avec des pièces de Schubert, Rachmaninov et Scriabin. C'est un artiste qui a une virtuosité incroyable.
Ah, c'est peut-être un des plus grands virtuoses actuels du piano.
Oui, Arkady mais qui en même temps a un sens des couleurs, a quelque chose de plus. Mais c'est vrai que c'est un virtuose transcendant. Et donc, si on a réservé ses places pour Murray Peraya, on peut les maintenir pour Arkady Volodos, que nous recommandons expressément.
Oui, alors les grands admirateurs de Murray Peraya, évidemment, seront déçus, on les comprend, mais ceux qui aiment le beau piano, le grand piano, eux, ils n'auront pas perdu aux chances que Arkady Volodos, c'est remarquable également. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et il est temps de remercier mes amis Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy d'avoir encore été à mes côtés pour l'animer. Je rappelle les concerts qui sont programmés la semaine prochaine à Toulouse et ailleurs. Tout d'abord celui du pianiste Adam Laloum et de l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain, ce samedi 12 janvier à 20h sous la direction de Ka-Chung Wong, avec le concerto numéro 21 de Mozart et la symphonie numéro 1 de Mahler au programme. Vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site web de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. L'Orchestre de Chambre de Toulouse donne lui son programme Bach Père et Fils lundi et mardi 15 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis jeudi 17 et vendredi 18 à l'escale de Tournefeuille. Ces quatre concerts commencent à 20h30 et il est possible de s'informer et de réserver sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr.
Je rappelle le concert du pianiste Julien Brocal à l'auditorium du musée des Abattoirs, mardi 15 janvier à 18h15 dans le cadre de la saison bleue. Il va jouer des œuvres de Montpaou et Ravel. Renseignements et réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et puis je rappelle également le concert des King Singers à Saint-Pierre-des-Cuisines, samedi 19 janvier à 20h, avec une ribambelle de pièces en tout genre chantées a cappella. Vous pouvez consulter le site des grands interprètes pour connaître le détail du programme et réserver vos places s'il en reste, www.grandsinterprètes.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de rester fidèle à notre écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.